Bonjour et bienvenue à BetaFinch, votre podcast d'analyse des résultats générés par intelligence artificielle. Je suis Alex, et aujourd'hui, nous décortiquons les résultats impressionnants de Morgan Stanley pour le deuxième trimestre 2026. Avant de commencer, voici une information importante. Ce podcast est un contenu généré par intelligence artificielle à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Rien de ce que nous discutons ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement.
C'est bien dit, Alex. Et je dois dire, les résultats que nous allons analyser aujourd'hui sont tout simplement spectaculaires.
Alors, commençons par les chiffres. Morgan Stanley a enregistré des revenus records de 21,3 milliards de dollars pour le trimestre, avec des bénéfices par action de 3,46 dollars. Au premier semestre, cela représente 42 milliards en revenus et 6,90 dollars en BPA. C'est extraordinaire.
C'est vraiment remarquable, Alex. Et voici ce qui rend cela encore plus impressionnant, la banque a atteint un jalon stratégique majeur avec 10 billions de dollars d'actifs clients combinés entre la gestion de patrimoine et la gestion d'actifs. Pense à cela, 10 trillions. C'est énorme.
Absolument. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est le rendement du capital tangible, 27% pour le premier semestre. Cela montre une efficacité opérationnelle remarquable. Comment Morgan Stanley arrive-t-elle à extraire cette valeur ?
Eh bien, il y a trois piliers clés. D'abord, la banque de titres institutionnels, 11 milliards de revenus records ce trimestre. Deuxièmement, le secteur des actions, 6,3 milliards, également un record. Et troisièmement, la gestion de patrimoine, 8,9 milliards. C'est cette intégration de l'ensemble de la plateforme qui crée la synergie.
Parlons justement de la gestion de patrimoine, car les chiffres de cette division sont presque incroyables. Jordan, tu as vu ces chiffres d'afflux net?
148 milliards de dollars d'afflux net pour le trimestre. C'est un record. Et voici le détail fascinant, plus de la moitié provenait des introductions en bourse. Nous parlons ici d'employés de sociétés qui deviennent soudainement clients avec des portefeuilles significatifs.
Donc, le canal de lieu de travail fonctionne exactement comme Morgan Stanley l'avait prévu. Ted Peake a mentionné qu'il contrôle environ 70% des 100 licornes les plus importantes en termes de pipeline de lieux de travail.
Oui, et c'est un point de différenciation majeur. Ces plus petites sociétés de gestion de fortune concurrentes ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec cette capacité. Morgan Stanley a toute la chaîne du financement privé au soutien au IPO à la gestion de patrimoine.
Parlons maintenant de quelque chose qui a dominé la discussion lors de l'appel d'investisseurs, ce que je vais appeler le « cycle de dépenses en IA ». Ted Peake a fourni des chiffres vraiment détaillés sur ce sujet.
Il a absolument frappé un coup de circuit avec celui-ci. Il a présenté une théorie selon laquelle nous pourrions voir environ 10 billions de dollars dépensés en informatique d'IA au cours de la prochaine décennie. Mais considère cela, en 2026 seul, les prévisions de dépenses en centre de données IA sont passées de 575 milliards à 850 milliards. Et pour 2027, 700 milliards à 1,3 trillion.
C'est une accélération significative. Et le raisonnement de Peake était que chaque grand cycle technologique majeur a produit une augmentation de 10 fois de la capacité informatique. S'appliquant à l'IA, cela suggère théoriquement 10 billions de dollars de dépenses totales.
Exactement. Maintenant, le point crucial pour les investisseurs, Morgan Stanley est positionné pour bénéficier de cette tendance de trois manières. En tant que conseiller en capital levé pour les hyperscalés. En tant que preneur de marché facilitant le trading. Et en tant que gestionnaire de portefeuille pour la richesse créée.
Et Peake a admis honnêtement qu'il y a énormément d'incertitudes ici. Il a mentionné que les innovations technologiques, les implications géopolitiques, les goulots d'étranglement énergétique, tous ces éléments pourraient changer radicalement les calculs.
J'ai vraiment apprécié cette humilité. Trop souvent, les PDG présentent les projections comme du béton. Peake a reconnu que ce sont réellement les « inconnus connus ».
Parlons maintenant du pipeline de banque d'investissement. Les questions posées par les analystes ont vraiment creusé sur la durabilité de ces niveaux d'activité.
Oui, et voici ce qui était intéressant, les revenus de banques d'investissement ont augmenté de 58% en glissement annuel. Mais, Et c'est important, Morgan Stanley a admis qu'ils ne sont pas encore aux niveaux historiques en termes d'activités annoncées ou complétées.
Il y a donc de la place pour croître. Epic a parlé de trois facteurs clés qui pourraient alimenter la banque d'investissement. Premièrement, l'IA, les entreprises doivent penser à la taille, à l'efficacité et à la productivité. Deuxièmement, une normalisation de la régulation, moins de risques réglementaires pour les transactions. Et troisièmement, une réorganisation géopolitique de la chaîne d'approvisionnement.
Ce qui signifie que les entreprises mondiales reconsidèrent où elles fabriquent et distribuent. Cela crée énormément de possibilités de fusion et acquisition. C'est un environnement vraiment favorable.
Exactement. Et sur les sponsors, Peak a noté qu'il trouve des opportunités d'IPO plus attractives maintenant que les actions commerciales performent bien et que les multiples d'évaluation se normalisent.
C'est une dynamique intéressante. Tu as une compétition saine entre les acheteurs stratégiques et les sponsors de capital investissement pour les actifs de qualité.
Parlons maintenant de quelque chose que tout investisseur bancaire se demande, la durabilité des résultats commerciaux de Trading Record.
C'est la grande question, n'est-ce pas? Sharon a fait une observation clé et il voit une « diversification » de l'activité. Non seulement l'Asie-Pacifique ne se limite pas à la Chine, mais aussi au Japon, à la Corée, à Taïwan, à l'Inde. Et les actions asiatiques 6,3 milliards de revenus records.
Epic a également souligné qu'ils ne sont pas uniquement une entreprise américaine, malgré ce que les investisseurs pourraient penser. Ils sont une maison asiatique majeure, 25% appartient à MUFG depuis la crise financière.
C'est un point de différenciation majeur. La plupart des banques d'investissement sont largement concentrées aux États-Unis. Morgan Stanley a une exposition équilibrée entre la richesse aux États-Unis et les marchés mondiaux.
Passons maintenant à la structure de capital et à la politique de retour aux actionnaires. Morgan Stanley a annoncé une augmentation de 15% du dividende trimestriel à $1,15 par action.
Et voici pourquoi ils peuvent se le permettre au cours des 10 derniers trimestres. Ils ont ajouté 18 milliards de dollars de capital CET1 tout en retournant du capital aux actionnaires. Ils ont maintenant un coussin de capital de 3 cents à 350 points de base au-dessus des minimums réglementaires.
Ce qui soulève une question que Chris M. Segrati de KBW a posée, pourquoi retenir autant de capital? Peak a répondu honnêtement qu'il y a énormément de demandes internes pour ce capital.
Oui, les clients de la banque d'investissement en veulent plus. Les clients de crédit en veulent plus. Les clients d'équité de courtage de primes en veulent plus. Il existe une demande massive pour la prise de risque de capital de Morgan Stanley.
Mais Peak a établi une hiérarchie claire, le dollar suivant d'allocation devrait d'abord aller aux opportunités de croissance organique. Pas aux acquisitions, bolt-on, compliqué.
Sauf si une opportunité vraiment attrayante se présente qui correspond à leur stratégie, ajoute une géographie, ajoute une capacité adjacente et ne crée pas de problème d'intégration. Mais sinon, c'est capital pour les clients.
Et enfin, parlons du ratio d'efficacité. Morgan Stanley a affiché un ratio d'efficacité au premier semestre de 65%, ce qui signifie que pour chaque dollar de revenu, il dépense 65 cents.
C'est vraiment efficace pour une banque mondiale. Et ils ont commenté que les marges de gestion de patrimoine 30,5% ne se résoudront pas à 30 ou 31%, mais continueront à évoluer en fonction de l'activité. Quand le marché est fort, les marges augmentent. C'est la nature du commerce.
Donc, pour résumer pour nos auditeurs, Morgan Stanley a livré des résultats exceptionnels portés par un marché actif, des clients qui agissent, et une intégration transparente de sa plateforme. Le pipeline s'améliore. Les perspectives pour le cycle de dépenses en IA sont potentiellement transformationnelles. Et le capital excessif offre une flexibilité stratégique.
Les risques à surveiller incluent un ralentissement du marché, une escalade géopolitique, une déception dans les dépenses réelles en IA par rapport aux projections. Mais pour l'instant, Morgan Stanley est bien positionné.
Avant de partir, Jordan, j'aimerais que tu lises notre avis de conclusion pour les auditeurs.
Bien sûr. Tout ce qui a été discuté est une analyse générée par IA à des fins éducatives. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez faire votre propre diligence raisonnable avant de prendre toute décision d'investissement.
Merci d'avoir écouté Beta Finch. Pour plus d'analyses et de transcriptions, visitez-nous en ligne. À bientôt.